l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Hier, la dépouille d'un Canadien est arrivée au pays du matin clair et il a été solennellement accueilli avant de reposer en paix à Busan. Qui est-il ? Pour quelles raisons la Corée du Sud lui réserve un tel accueil ? La réponse dans un instant. La Corée du Sud a accueilli les restes de John Robert Cormier, arrivé hier à l'aéroport international d'Incheon. Ce Canadien fait partie des soldats des forces des Nations Unies qui ont lutté pour la liberté, la démocratie et la paix pendant la guerre de Corée. En avril 1952, Cormier est venu défendre la Corée du Sud à l'âge de 19 ans et il y a combattu au péril de sa vie pendant un an. En 1953, il a regagné son pays, il a travaillé à la poste au Canada. Et il est décédé le 24 novembre de l'année dernière. Avant sa mort, Cormier a exprimé sa volonté d'être enterré en Corée du Sud. Suite à un accident vasculaire cérébral, il avait quelques difficultés pour communiquer. Malgré cela, il a réitéré sa ferme volonté auprès de son frère. Dès le lendemain de sa mort, la famille du défunt a demandé l'inhumation au parc commémoratif de l'ONU en Corée, dont la commission il y a récemment donné son approbation. Hier, la dépouille de John Robert Cormier a été reçue par une garde d'honneur de l'armée sud-coréenne à l'aéroport international d'Incheon, et une cérémonie officielle a été organisée en son honneur, en présence de ses deux neveux, du patron du ministère sud-coréen des affaires des patriotes et des anciens combattants, et des représentants de l'ambassade du Canada à Séoul. Aujourd'hui, Cormier a été inhumé au parc commémoratif de l'ONU en Corée, situé dans la ville portuaire de Busan. Il est le 14e ancien combattant étranger qui est retourné dans sa patrie après la guerre de Corée et dont la dépouille a regagné la Corée du Sud pour son enterrement dans ce parc. Le premier était un Français. Raymond Bénard a été enterré dans le même parc onusien en mai 2015. Avant l'arrivée de Cormier, le parc commémoratif de l'ONU en Corée a accueilli au total 13 anciens combattants. 4 Américains, 3 Néerlandais, 2 Français et 2 Britanniques. Un Canadien et un membre de la KATUSA, à savoir la troupe des soldats sud-coréens rattachés à l'armée américaine stationnée au sud du 38e parallèle. Une précision, le parc commémoratif de l'ONU en Corée était autrefois appelé le cimetière du mémorial des Nations Unies en Corée, en ce qu'il a été aménagé pour enterrer les soldats tombés au combat entre 1950 et 1953, mais il a adopté ce nouveau nom actuel pour se rapprocher davantage du grand public. Arrive d'éviter les infos de façon sélective ? 2 Sud-Coréens sur 3 répondent que oui. C'est ce que révèle le Digital News Report 2022 publié par l'Institut des études de journalisme de Reuters, rattaché à l'Université Oxford au Royaume-Uni. C'est un rapport annuel édité depuis 2012. Il rend compte des comportements et des mentalités concernant l'usage des actualités numérisées chez les habitants des principaux pays. Cette année, il a réalisé à partir des résultats de sondages menés en ligne auprès de plus de 93 000 personnes de 46 pays, y compris plus de 2000 Sud-Coréens. Selon cette étude, 67% des Sud-Coréens sondés disent avoir délibérément évité les nouvelles d'actualité contre 52% en 2017, soit une hausse de 15 points. Et ce chiffre est légèrement plus bas que la moyenne des personnes interrogées des 46 pays, à savoir 69%. Comment expliquer un tel évitement sélectif des infos ? Pour ne citer que la raison plébiscitée, 42% des Sud-Coréens qui disent avoir esquivé activement les infos estiment qu'elles sont biaisées et qu'ils ne peuvent pas leur faire confiance. Pour l'ensemble des 46 nations, c'est une autre motivation qui arrive en tête. 43% des sondés se disent rebutés par le caractère répétitif des sujets traités dans la presse, notamment la politique et le Covid-19. Par ailleurs, le pays du matin clair a vu la confiance dans les médias de ses habitants tomber à 30%, soit un recul de 2 points en un an. Cette année, elle occupe la 40e place parmi les 46 nations sondées, pour descendre 2 marches par rapport à l'année dernière. C'est la Finlande qui enregistre la confiance la plus élevée en la matière avec 69%. Les États-Unis est le pays où le niveau de confiance dans les médias est le plus bas. L'Institut des études de journalisme de Reuters s'est penché aussi sur le niveau de confiance chez les 15 médias d'information les plus utilisés en Corée du Sud. Pour ne citer que les trois les plus appréciés en la matière, c'est YTN qui arrive en tête avec 50,7%, viennent derrière SBS avec 48,9% et KBS, la maison mère de KBS World Radio avec 48,7%. Par ailleurs, 19% des Sud-Coréens interrogés estiment que les médias de leur pays sont indépendants du pouvoir politique et 18% vis-à-vis de l'influence commerciale, soit un progrès respectivement de 7 points et de 6 points en un an. Lorsqu'il s'agit de savoir par quels moyens accéder aux infos, la réponse via les moteurs de recherche et les services de collection des infos a été plébiscitée par 69% des questionnés en Corée du Sud et occupe la deuxième place derrière le Japon. Or, cette modalité est choisie seulement par une faible part des personnes interrogées, à savoir allant de 10 à 20% en Europe du Nord, où la confiance dans la presse s'avère très élevée, comme en Finlande, en Norvège et au Danemark. Dans ces nations, la majeure partie, de 52% à 65% des sondés, disent accéder directement au site internet ou l'application mobile des médias d'information. Dans la vie, il y a des moments où on a envie de fermer les yeux, fermer les oreilles et retenir sa respiration pour ensuite plonger dans une mer profonde tout en gardant son cœur d'enfant. C'est ce que disent les paroles de la chanson que je vous propose d'écouter pendant la pause musicale « L'enfant à la mer » Pada Ai, interprétée par Yuna.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Christophe Duvert, mardi 21 juin 2022. Depuis quelques années, on parle souvent d'une société sans argent liquide. Cette idée n'est pas devenue tout à fait réalité. Mais les billets et les pièces de monnaie continuent à perdre du terrain, ce au profit d'autres moyens de paiement. Cette tendance s'est accélérée pendant la crise du Covid-19 en favorisant le paiement sans contact. C'est ce que montre un rapport récemment publié par la Banque de Corée. Le texte rend compte de la situation en 2021 des paiements en argent liquide selon les acteurs économiques. Il se base sur un sondage réalisé entre fin septembre et fin novembre de l'an dernier auprès de 1500 foyers, 505 entreprises et 5 employés ou plus, ainsi que 450 établissements traitant de l'argent liquide. D'abord, les ménages ont dépensé en espèces 510 000 won, soit l'équivalent de 370 euros par mois, pour payer leurs achats de produits ou de services au cours de l'année dernière, soit une baisse de 25,4% par rapport à 2018. Chez les foyers, la plupart de l'argent liquide ne présente que 21,6% de tous les moyens de paiement, alors que les cartes de crédit ou de retrait occupent 58,3%. Une telle évolution est plus marquée pour les entreprises. Celles-ci ont dépensé en espèces 9,1 millions de won, soit l'équivalent de 6 700 euros par mois, soit une chute de 68,5% par rapport à 2018. Chez les entreprises, la part de l'argent liquide dans les paiements est passée de 3,3% à 1,2% entre 2018 et 2021, tandis que celle des virements bancaires est passée de 80 à 86% sur la même période. Cependant, l'argent sous forme physique a toujours sa cote en tant qu'actif sécurisé. Ainsi, 31,4% des foyers répondent disposer d'argent liquide en réserve pour faire face à une urgence, soit une hausse de 8% en 3 ans, même si le montant de ce fonds a légèrement baissé. Chez les entreprises, la somme du fonds d'urgence en liquide a augmenté de 111,4% par rapport à 2018. Dans ce contexte, 6,9% des sondés ont répondu qu'ils ont été confrontés à un refus lorsqu'ils ont voulu payer en liquide dans un restaurant ou chez un commerçant au cours des 12 derniers mois, soit une hausse de 6,4 points contre 0,5% en 2018. Parmi eux, 64,2% ont essuyé un tel refus dans les magasins franchisés, 13,7% chez les petits commerçants et 5,4% dans les grandes enseignes de supermarchés. Selon la Banque de Corée, cela s'explique par les inconvénients suivants. Le paiement en argent liquide risque d'être omis dans la comptabilité, d'être perdu ou volé plus facilement et de nécessiter des frais de gestion. Les grandes vacances d'été approchent à grands pas. Certains entendent déjà l'appel de la mer. Une bonne nouvelle. En Corée du Sud, les stations balnéaires pourront ouvrir leurs ports cet été, soit une première depuis 2 ans, grâce à l'allègement des mesures de distanciation sociale qui avaient été imposées dans le sillage de la crise du Covid-19. Cependant, il faudra patienter davantage pour la baignade, parce que la plupart des plages du pays ont programmé leur ouverture officielle au début du mois de juillet. Mais les Sud-Coréens sont nombreux à ne pas attendre cela pour se rendre sur les plages à la recherche d'un peu de fraîcheur. En juin, le pays a compté plusieurs jours où la température a dépassé les 30 degrés. Au cours des 2 dernières années, les vacanciers avaient tendance à fuir les lieux à haute fréquentation par peur de se retrouver au milieu d'une foule. Donc certains préféraient se calfeutrer chez eux, tandis que d'autres cherchaient des endroits peu visités, non loin de leur ville de résidence. La situation a changé depuis que le gouvernement a levé l'obligation de porter le masque à l'extérieur en mai. Même avant l'arrivée de la saison estivale, les habitants étaient nombreux à vouloir faire une petite escapade en week-end ou à profiter des jours fériés, comme les élections locales du 1er juin et la journée commémorative des soldats morts pour la patrie le 6 juin. TDI, l'entreprise spécialisée dans les big data, données de grande échelle à analyser, les déplacements à destination des stations balnéaires des usagers de TMAP, une application de navigation GPS pour les conducteurs de véhicules. L'enquête s'est focalisée sur la période de la 4e semaine du mois de mai et la 1ère semaine de ce mois de juin, où la température diurne avoisinait celle de l'été. Quelles plages ont été les plus fréquentées ? L'enquête en question établit la liste du top 10 comme la suivante. C'est la plage de Daecheon qui arrive en tête, située dans le centre-ouest du pays, plus précisément à Boryang, dans la province de Chungcheong du Sud. Elle est réputée pour sa bande de sable blanc large de 100 mètres et longue de 3,5 km. Elle a aussi une zone intertidale où l'on peut faire l'expérience du ramassage de coquillages. C'est un lieu de vacances idéal pour les vacanciers en famille. La fameuse plage de Haeundae à Busan occupe la 2e place. Ensuite, la plage de Eulwangi à Incheon, non loin de la région métropolitaine de Séoul, arrive au 3e rang. 2 plages de la province de Gangwon, à savoir Gyeongpo et Sokcho, se trouvent respectivement au 4e et 5e rang. Celle de Kochi, dans le centre-ouest du pays, de Dongmak à Incheon et de Gwangalli à Busan occupent dans l'ordre la 6e, la 7e et la 8e place. La plage de Hyeopjae sur la grande île méridionale de Jeju et celle de Bangamori à Ansan au sud-ouest de Séoul partagent les 9e et 10e places. Chaque été, certains tubes reviennent et ils sont souvent pris par les jeunes artistes. C'est le cas pour la femme de la plage, Haebyeon-ae Yeoin du trio Cool. Écoutons la version reprise par Paul Kim.
Ce qu'est ce que c'est, ce temps-là, sur la plage,
Une fois arrivé sur la plage, chacun trouvera son bonheur en pratiquant son activité préférée. Par exemple, se promener au bord de la mer ou se baigner dans l'eau rafraîchissante. Certains aiment pratiquer le surf et leur nombre est en hausse depuis quelques années. Sur la côte ouest du pays, connue comme la destination de prédilection des estivants, certaines activités locales proposent des cours gratuits de surf afin d'attirer les vacanciers. Or, ceux qui pratiquent le surf en plein été risquent d'être sanctionnés à partir du mois prochain. C'est le cas pour la plage de Jina, située dans le canton Uljo de la ville métropolitaine d'Ulsan. Ce site est connu notamment comme étant le lieu d'une compétition internationale de windsurf réunissant les meilleurs de la discipline. La plage de Jina attire 200 surfeurs par jour pendant la haute saison. Par ailleurs, la municipalité d'Ulsan a alloué une partie de son budget pour subventionner les cours gratuits de surf pendant 6 mois dans le but d'attirer des estivants. Cependant, une fois la station balnéaire officiellement ouverte en juillet, les surfeurs risquent d'écoper d'une amende d'1 million de won, soit 740 euros au maximum, s'ils pratiquent ce sport sur la plage de Jinhae. Comment expliquer cette situation? En fait, la police maritime a décidé de classer la zone située à l'extérieur des périmètres de baignade, c'est-à-dire la quasi-totalité de la plage, comme zone d'interdiction pour les loisirs nautiques pendant l'ouverture officielle au public. Le but est d'assurer la sécurité des baigneurs. Pour cela, la police interdit toutes les activités, y compris non seulement les bateaux de plaisance à moteur, mais aussi les loisirs sans moteur, tels que le surf. La même règle s'applique à toutes les plages sur la côte est. À cause de cette mesure, il sera impossible d'y pratiquer cette activité en plein été, alors que celle-ci est par définition un sport d'été. Une certaine Im trouve cette situation paradoxale. Or, toutes les plages ne sont pas logées à la même enseigne. Si on se déplace dans le sud du pays, ce sera une autre histoire. Par exemple, la plage de Haeundae a modifié son règlement l'an dernier, de sorte à interdire seulement les engins motorisés comme le jet ski ou le bateau à moteur. Quant aux stations balnéaires de Songjiang et de Gwangalli, elles sont aussi aménagées une zone réservée au surf tout en l'élargissant au fil des années. Ainsi, elles tâchent de s'adapter au changement rapide de la culture des loisirs. Les régions de la côte est pourraient en tirer des leçons. Un mot coréen à la mode risque d'être banni dans la province de Gyeongsang du Sud. L'expression « mise au pilori » est « mayak ». Le terme est ajouté, par exemple, pour des casse-croûtes tels que le kimbap et le tteokbokki, à savoir, respectivement, le rouleau de riz aux divers légumes et viandes enveloppés dans une algue noire séchée et les bâtonnets de riz cuits à la sauce très pimentée. Autrement dit, ces produits sont appelés mayak kimbap et mayak tteokbokki, signifiant littéralement le kimbap à la drogue et le tteokbokki à la drogue. Ces nourritures ne contiennent évidemment pas de substances illicites. C'est juste une métaphore pour dire « c'est exquis et addictif comme une drogue ». On devient alors accro et on ne peut plus s'en passer, comme pour les effets de la drogue. Il s'agit d'une appellation plutôt amusante. On peut y déceler une pointe d'humour, son nom mayak attise la curiosité, comme un effet de contagion. Les commerçants sont nombreux à adopter cette expression pour qualifier leurs produits. On entend dire aussi dans une publicité « mayak pegé » qui veut dire « l'oreiller à la drogue ». C'est une façon de mettre en avant la qualité de l'oreiller, pour dire « cet oreiller vous plongera dans un sommeil profond comme le ferait une substance illicite ». Selon certains, la banalisation de l'expression « mayak » risque de faire baisser la méfiance chez les jeunes contre les dangers de la drogue, et il faudra appeler les commerçants et les entreprises à arrêter d'utiliser ce terme dans les noms de leurs produits ou de leurs publicités. Au Conseil régional de la province de Gyeongsang du Nord, la Commission de la culture et du bien-être a adopté un projet d'arrêté qui va dans ce sens. La semaine dernière, c'est Yoon Sang-mi, une élue du parti du pouvoir du peuple, qui a pris l'initiative de déposer ce texte. Selon elle, le contexte où la consommation de stupéfiants chez les adolescents est devenu un sérieux problème. Il est déplorable de laisser utiliser couramment le terme « mayak », donc signifiant « à la drogue », pour les produits alimentaires directement liés à la vie quotidienne ou des noms d'enseignes commerciales. L'initiatrice du projet a souhaité provoquer une prise de conscience sur le danger de la banalisation de ce terme. Selon Yoon, il est important de faire en sorte que les adolescents n'aient pas du tout accès au mot « drogue ». Il faut donc interdire d'utiliser couramment cette expression. Cet élu a souhaité que le nouvel arrêté puisse faire disparaître le mot incriminé au quotidien. Plus concrètement, le texte prévoit une clause invitant le préfet à recommander aux commerçants et entreprises d'utiliser correctement les inscriptions en hangul, l'alphabet coréen, lorsqu'ils installent leurs enseignes ou qu'ils publient leur prospectus de publicité. Le conseil régional de Gyeongsang du Nord devrait soumettre au vote ce texte lors d'une séance plénière prévue aujourd'hui. Pour certains, l'amour est synonyme d'addiction. Je vous propose d'écouter « Addiction ». Jundok ou Overdose interprété par Exoka avant de vous laisser entre les mains de Huang Yiyang pour Saveur du terroir.
Comme vous le savez très bien, près de 70% de la péninsule coréenne est constituée de régions montagneuses. Donc si vous voyagez dans le pays, vous serez attiré par ces paysages vallonnés. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveur du terroir vous invite à Drogyusan afin de découvrir la cuisine locale conservée par les habitants. Drogyusan est une chaîne de montagnes qui s'étend sur plusieurs régions, dont les comtés de Muju et Jiangsu de la province de Jeolla du Nord et les comtés de Gochang et Hamyang de la province de Gyeongsang du Sud. Culminant à 1614 mètres d'altitude, le mont Drogyu est la quatrième montagne la plus haute de la Corée du Sud. Comme l'indique son nom qui veut littéralement dire « montagne pleine de vertus », les habitants disent qu'ils ont énormément profité la montagne. Ainsi, au lieu d'être avide, il se contente de ce qui est fourni par la nature. À Hyangjokbong, le plus haut pic de cette montagne, nous sommes accueillis par M. Park, qui est le gardien du refuge depuis une vingtaine d'années. Il s'occupe également de la petite aire de repos pour les randonneurs. Bien que le travail solitaire ne soit pas facile, il se dit content de pouvoir rencontrer différentes personnes tous les jours et partager des plats simples avec eux. Aujourd'hui, ses amis d'enfance lui ont rendu visite avec leur sac à dos plein d'aliments pour le déjeuner. Tout d'abord, on commence par préparer les nouilles instantanées ramyeon. La particularité de ce ramyeon, c'est qu'il est garni de chinamul, herbe sauvage bien fraîche cueillie sur le chemin. Si on l'ajoute juste avant d'éteindre le feu, le plat devient légèrement amer et parfumé. Selon M. Park, le ramyeon est le meilleur menu de tous les randonneurs. Afin de donner l'énergie à leurs copains, les amis ont amené deux gros poulets. Dans un bouillon, ils les font cuire en ajoutant des jujubes, des goustailles, diverses racines censées être nutritives, ainsi que des champignons nengi. En partageant ce plat fortifiant dont le bouillon est infusé d'ingrédients médicinaux, les amis d'âge mûr se souviennent de leur enfance. En vue de remercier ses amis, M. Park les régale d'un plat liquide qu'il prépare avec des ingrédients légers. Dans de l'eau bouillante, il fait cuire des fruits de mer secs, dont les crevettes, les moules et le poulpe. Sans aucun condiment supplémentaire, le plat au goût profond et bien succulent tel quel. Drogyusan est une montagne particulièrement riche en eau et en terre. Vu les eaux qui coulent partout, le brouillard y est particulièrement épais. Madame Kim, sexagénaire, a vécu plus de 30 ans juste à côté de la célèbre vallée de Gucheon-dong. Chaque matin, elle fait une randonnée dans la forêt qu'elle connaît très bien. Elle peut même suivre le chemin les yeux fermés. En s'y promenant, elle découvre les différentes herbes sauvages selon les saisons et divers petits animaux l'accueillent. Pour cette dame d'âge mûr, Drogyusan est un ami particulier sur lequel elle peut s'appuyer et qui lui fournit tout ce dont elle a besoin. Une fois retournée chez elle, Madame Kim se dépêche de cuire à la vapeur, étaler et sécher les herbes namul dans la cour. Sans surprise, ses repas sont constitués d'ingrédients qu'elle trouve dans la nature au jour le jour. Tout d'abord, le chinamul, on le fait blanchir légèrement dans l'eau bouillante avant de le tremper dans l'eau froide. C'est une astuce pour rendre l'herbe plus verte et appétissante. L'assaisonnement se fait avec de l'huile de sésame et de la sauce soja. Avec les pousses de laki conservées dans la sauce soja durant environ une semaine, on prépare le otsun changati. On les assaisonne avec la pâte de piment rouge et cela devient un mets qui ouvre l'appétit avec une saveur à la fois pimentée et salée. La galette de pousse de laquier au Tsundon est aussi un plat qui permet de déguster la saveur originale de cette plante fortifiante. Notre voyage à la recherche de la table de Togusan se poursuit la semaine prochaine.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Christophe Duvert au micro et Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.